Khalad Jazz. Tout sur le jazz avec Philippe, Richard et Dédé.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Khalad 100.9. Soyez le bienvenu dans votre émission Khalad Jazz. Je suis avec mes complices de toujours, Philippe. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Richard.
Dédé à la technique, bonsoir,
bonsoir
Dédé.
Bonsoir.
Et Françoise, que je salue.
Oui, moi aussi, je vous salue.
Alors, tu es loin là, Françoise?
Tokyo, non.
Je suis à Tokyo cette fois.
Ah là là.
Parce que nous, on a de la pluie et toi, non? Ça va, beau temps?
Non, pareil.
Bon, ok. Alors, ce soir, nous allons rendre hommage à un grand monsieur qui nous a quittés cette année à l'âge de 89 ans. Je veux parler du saxophoniste et compositeur Wayne Shorter et nous allons lui consacrer deux émissions tellement il y a à dire.
Et on a même pu en faire 3, 4, 5, 6 et ouais, passer mais... l'année, mais bon, hein, on va rester raisonnable.
Non mais là t'es comment, Philippe?
Rester raisonnable, le grand Wayne.
Dans cette première partie, nous allons lui rendre hommage à peu près jusqu'en 1969. Mais commençons par ses débuts. Il est né en 1933 dans le New Jersey. Et pendant son enfance, avec son frère Alan, ils ont d'abord une fascination pour le cinéma, notamment pour les bandes-sons, ce qui l'influencera tout au long de sa carrière. Après, il va découvrir en écoutant la radio les big bands. Il va d'abord se tourner plutôt vers le dessin et la peinture. Il va même obtenir un diplôme en beaux-arts au collège. Après, il va découvrir le bebop. Il va écouter en concert tous les grands, Charlie Parker, Monk et bien d'autres. Et il va se mettre à la clarinette et son frère au saxophone alto. Les deux frères passent alors leur temps à jouer, à cultiver une image un peu d'excentrique, se faisant appeler Doc Strange, par exemple. Petit exemple. Il dirige une formation qui joue principalement de la musique de danse. Et puis là, Wayne commence à composer, écrivant des mambos qui sont alors très à la mode. N'est-ce pas, Philippe?
Tout à fait.
Bien. Bientôt, il passe au saxophone ténor. Et à l'université, il va suivre des cours d'harmonie et d'orchestration. Et obtient, en 1956, un diplôme en éducation musicale.
Et justement, est-ce que je peux juste interrompre
une seconde
pour glisser une petite chose? Parce que pour nos amis auditeurs, et je suis sûr de plus en plus nombreux, qui ont écouté et qui écoutent nos émissions, on a évoqué effectivement les débuts du jazz dans certaines de nos émissions, où on était dans la tradition orale, etc. Et là, on est vraiment avec des musiciens, qui vont à l'école, quoi, qui apprennent l'harmonie, qui apprennent la composition, qui apprennent tout ça. Et donc forcément, on commence vraiment dans une autre période où le jazz, malheureusement ou heureusement, je sais pas, devient un petit peu une musique savante entre guillemets, quoi.
Tu penses que ils peuvent plus improviser, ils n'arrivent plus d'eux-mêmes.
Si, toujours, mais sauf qu'il va falloir qu'ils apprennent vraiment l'harmonie, puisque la tradition orale entre guillemets est arrivée un petit peu à son terme. Voilà, maintenant il faut aller plus loin. Alors c'est pas le premier, hein. Duke Ellington est passé par là avant, même le grand Louis Armstrong à un moment donné sur la fin de sa vie. Mais là on est vraiment dans des générations de musiciens qui vont, pardonnez-moi l'expression, aller à l'école, quoi.
Ouais, souvent je dis qu'il s'est intellectualisé en fait.
Oui, tout à fait.
Ah, c'est ça,
tout à fait.
Alors, Wayne Shorter, il part d'abord faire un service militaire de 2 ans, où malheureusement il va prendre goût à l'alcool. Ça le poursuivra toute sa vie. Et puis il rencontre un futur collaborateur, la personne du pianiste Cedar Walton. On prononce comme ça,
hein? C'est ça.
Cedar, d'accord. Alors là, nous allons arriver à ses premiers enregistrements, mais je vais te laisser nous en parler, Philippe.
Oui, donc on va démarrer par le début, comme d'habitude. Donc là, tu as très très bien, comme d'habitude, dépeint chronologiquement le début de vie de notre ami Wayne Shorter. Donc forcément, qui fait les allers-retours entre la maison et New York. Donc comme tu l'as très bien dit, il va rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens, participer à des jams, etc., des clubs et tout, et tout, et tout. Et donc je vous propose, moi, un premier enregistrement qui date de novembre 1959. Dans un studio qui est resté célèbre aux États-Unis parce que beaucoup sont enregistrés, c'est le Bell Sound Studio, donc c'est à New York. Et l'enregistrement comprend 5 compositions du grand Wayne Shorter, excepté My The Knife, qui est de Kurt Weill. Le disque s'appelle Introducing Wayne Shorter, en faisant simple, d'accord. Mais à l'intérieur, et c'est là que ça va en faire rêver énormément, c'est qu'à l'intérieur, la composition de l'orchestre, c'est ni plus ni moins Lee Morgan à la trompette, Wynton Kelly au piano, Paul Chambers à la basse et Jimmy Cobb à la batterie. Tout ce petit monde est jeune à l'époque et tout ce petit monde va passer des décennies à jouer un petit peu partout à travers le monde. Je reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure sur Lee Morgan. Je m'arrêterai deux secondes avec lui. Mais je vous propose peut-être de commencer tout de suite à écouter un premier morceau. Hein. On va se taire un peu. Donc écoutons Black Diamond. Donc, il est issu de cet enregistrement de 1959.
C'était Black Diamond. Et oui, Philippe.
Oui, non, simplement parce que j'ai évoqué, juste avant qu'on lance la piste, j'ai évoqué Lee Morgan. C'est un extraordinaire trompettiste. Une demi-seconde. Alors, je sais bien que, logiquement, tous les aficionados connaissent l'histoire, mais Lee Morgan a été, malheureusement, une fin un peu tragique, pauvre homme. Il a été tué par son épouse. Il avait que 33 ans au Sloan Salon Sound Boulevard à New York d'un coup de revolver pour une sombre histoire d'adultère. Et je repense à quelque chose, c'est que je vous renvoie à un documentaire qui s'appelle Lee et Ellen Morgan, qui a été publié, je crois, en 2016, d'un cinéaste suédois qui s'appelle Gasper Collin. Et là où, effectivement, le monde du jazz perdait, dans ces années-là, un très, très grand trompettiste. Donc, je reviens juste sur Wayne Shorter, parce que là, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Wayne Shorter en tant que leader.
Oui.
Voilà. Mais à la même époque, bien évidemment, il était aussi dans d'autres choses, mais dont on va aborder
un petit peu plus tard.
Simplement, là, encore une fois, pour préciser, c'est que lorsque ce disque est sorti d'Introducing Shorter, bon, les critiques sont assez mitigées, il faut bien le dire. C'est vrai qu'à New York, c'est un peu saignant. Tout le monde lui reconnaît un grand talent, mais aussi une importante filiation avec Coltrane, qui est de 7 ans son aîné. Mais enfin, c'est pareil, ils passent leur nuit ensemble, alors bien évidemment. Ouais. Et quand on écoute bien le jeu de Shorter, on voit bien quand même qu'il s'imprègne énormément déjà du jeu de John Coltrane. On voit bien qu'il s'en a. Il faut écouter, quoi. Là, j'ai parlé, ça ne me sert à rien. Il faut simplement écouter. Voilà. C'est vraiment la seule chose que je voulais dire.
Merci, Philippe. Et bien, maintenant, je vais me tourner vers Françoise qui va nous parler de.
Eh bien, encore de l'année 1959. Mais le 15 novembre, quelques jours après l'enregistrement du morceau qu'on vient d'entendre, Wayne triomphe à Paris au Théâtre des Champs-Élysées avec Art Blakey and The Jazz Messengers. Et Jean-Christophe Averty est là. Il a la bonne idée d'en faire un film d'une demi-heure et demie pour l'ORTF qui est toujours visible sur le net. Eux, ils sont cinq sur scène. Art Blakey à la batterie, Lee Morgan à la trompette, Jimmy Merritt à la contrebasse, Walter Davis Jr. au piano et Wayne Shorter au saxo ténor. Quintette pour un théâtre, et quel théâtre ? Pas un bistrot de seconde zone, mais le théâtre des Champs-Élysées. L'une des plus prestigieuses salles de spectacle à Paris, pas très loin de la plus belle avenue du monde, au 5 avenue Montaigne. Prestigieuse, mais qui dès son ouverture en 1913 fera scandale. Les spectateurs en viendront aux mains lors de la première du Sacre du Printemps de Stravinsky. Dans les années 20, devant Joséphine Baker dans la Revue Nègre, un critique n'hésitera pas à crier que l'homme revient au singe. Révolutionnaire, le théâtre va l'être aussi dans son architecture. Construit dans un style sobre et rigoureux, le bâtiment est considéré comme l'un des premiers exemples de style art déco en architecture. Art déco, on fait souvent la confusion avec l'art nouveau. Au moins en Italie, on parle d'art fasciste, on ne risque pas de se tromper. Mais souvent aussi, on le situe dans les années 30. Pourtant, tout commence dans les années 10, quand l'art nouveau amorce sa décadence. Fini l'arabesque venu avec l'engouement pour le japonisme, l'entrelac se dénoue. La production, en série, fait loi, et c'est plus facile avec la ligne droite. Alors, comme dans la mode, l'art vit au rythme d'un éternel balancement. Il n'est que recommencement, scandé par un affrontement qui prend des noms différents selon les périodes, la querelle des modernes et des anciens, le baroque et le classicisme, et l'art nouveau et l'art déco. Mais cette volonté de modernité, l'architecte va le payer de sa renommée. Car initialement, la structure avait été pensée en acier, ce qui avait poussé son premier directeur à choisir deux architectes spécialisés en la matière. Mais dès 1910, le peintre Maurice Denis, élu pour la décoration de la coupole, conseille de faire appel à l'architecte belge Henri Van Velde, alors au fait de sa gloire. Désormais associé au projet, c'est lui qui en définit les grandes lignes. Dépouillement de l'ornementation, organisation géométrique suivant un rythme ternaire, mise en valeur de la verticalité par les pylônes. Et pourtant, la réalisation finale en reviendra à Auguste Perret, à qui Van Velde avait fait appel en tant qu'entrepreneur dans le but de réaliser son projet en béton armé. Et considéré comme un des premiers architectes spécialistes du béton armé, Perret en profitera pour évincer petit à petit l'architecte belge. Aussi, réputé pour son penchant du compromis, Perret fait appel au sculpteur Antoine Bourdel pour la décoration, entre autres de la façade, en incrustant en partie basse 5 plaques de travertin sculptées de bas-reliefs représentant les allégories des arts. Résultat, il faudra attendre 1957, 2 ans avant le concert du quintet, pour que la façade soit classée au monument historique.
Merci Françoise pour cette très intéressante intervention. Oui, Philippe.
Comme toujours. Non, bah, parce que oui. Françoise l'a mentionné donc, tout à l'heure, le fait que nos deux grands Wayne Shorter participaient aussi à d'autres choses, autant que par leader. Donc les Jazz Messenger, bien sûr, d'Art Blackie, où il est une pierre, ça, c'est incontournable si on veut. Donc il a participé à cette formation entre 59 et 1964. Là, c'est pareil, pour faire écouter tous les enregistrements, il nous faudrait des émissions à n'en plus finir. Il a très vite été le directeur musical des Jazz Messengers. Et là, je vous propose d'écouter, c'est mieux toujours d'écouter la musique, une composition qui est assez rare. Moi, je ne la connais que de deux enregistrements, dont un de Wayne Shorter à sa période, mais qu'on évoquera dans la seconde émission. Là, c'est tiré d'un enregistrement d'Art Blackie et de Jazz Messenger. L'instrument s'appelle Mosaïque, 1962. Alors, on va toujours retrouver toujours un petit peu les mêmes. Freddie Hubbard à la trompette, Curtis Fuller au trombone, Cedar Walton, que tu as cité tout à l'heure, donc piano, et Jimmy Merritt, qu'a cité Françoise à la basse, et bien sûr Wayne Shorter. C'est une composition à lui qui s'appelle Children and the Night.
c'était Children of the Night. Et nous continuons notre émission Calat Jazz sur Wayne Shorter. Là, c'est une période où il compose des grands standards, il fait des tournées internationales en France et notamment au Japon, où il a découvert que les Japonais étaient très,
tout à fait,
très demandeurs des jazzmen américains.
Eh oui, mais ça, juste historiquement, mais Françoise le dirait beaucoup mieux que moi, ça j'en suis sûr, mais simplement historiquement, parce que forcément les Américains ont gagné la guerre contre le Japon, et donc forcément ils ont amené le chewing-gum, le reste et aussi le jazz, et effectivement... Ouais. Par exemple, ça a été, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais les Japonais ont eu en leur possession pendant des décennies le fameux catalogue Blue Note, quoi. C'était à eux, quoi.
D'accord.
Il y avait des imports qui arrivaient du Japon à des prix pas possibles à l'époque, quoi, dans les années 80, 70, 80. Quoi.
Et d'ailleurs, il avait épousé en 1961 une Japonaise née aux États-Unis. Et en parallèle, comme tu le disais, il va développer une carrière solo. Il rencontre Herbie Hancock. Ça sera le début d'une très longue amitié.
Voilà, là, c'est... Voilà. Ouais.
Et puis, un dénommé Miles Davis, qui, parce qu'il cherche un saxophoniste et qu'il a des difficultés à en trouver un, il va demander à plusieurs reprises à Wayne Shorter de le rejoindre. Donc, finalement, il va accepter. Il sera aussi très intéressé pour ses compositions, faut le dire également. Et Miles Davis reconnaît que tout de suite, la musique a pris. Il disait même, Wayne me comblait parce que je savais qu'avec lui, on allait faire de la grande musique. Voilà. Et alors, tu vas nous parler de ce magnifique quintet, Philippe.
Oui, forcément, c'est encore une fois, c'est le quintet de Miles. Bon, avant, il y a eu forcément la participation avec John Coltrane, ça c'est évident. John Coltrane, qui, selon la légende ou pas, je ne sais pas, c'est lui qui aurait entre autres aussi recommandé Wayne Shorter à Miles. On n'y était pas, c'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas, mais enfin...
Il y a eu plusieurs demandes.
Oui, c'est ce qui est écrit parfois dans les choses. Enfin, en tout cas, tout ce petit monde était ensemble à New York, quoi. Donc, forcément, c'est une émulation, il faut imaginer. On peut peut-être même pas imaginer ce que c'était.
Il se voyait peut-être tous les jours.
Oui, voilà, c'était...
Ça devait bien discuter entre eux.
Tu jouais ici, là, tu rejouais le lendemain, enfin bon, c'était infernal. Donc, effectivement, entre Miles et Wayne, ça va durer 64-69, c'est le quintet, the quintet. Alors là, forcément, je renvoie tous les aficionados ou pas aux enregistrements de cette époque. Il n'y en a pas un, tout est sublime. Donc, il n'y a rien, tout est bon. Donc, moi, je vous ai... préparé... Un morceau, je ne sais plus où il est, mais je vais le retrouver. Voilà.
Danse.
Oui, Danse Cadavirus. Merci beaucoup. Danse Cadavirus. Où on va retrouver, comme d'habitude, bien sûr, Freddie Hubbard, trompette, Herbie Hancock, piano, Ron Carter à la basse, Elvin Jones à la batterie.
Ça démarre tout doucement. Hein.
Ah, ouais, d'accord.
Mais quand même, j'avais pas de signe, j'étais pas sûr de démarrer là.
Mais Richard, t'as pas du tout dit ce que t'as fait.
Ah, je l'ai coupé.
Qu'est-ce
que ça fait? Non, mais c'est elle qui parlait, il fallait pas qu'elle parle. J'ai oublié.
Thank you. Bon, voilà, mea culpa, bien évidemment, ne m'en voulez pas, je pense que vous avez tous reconnu mon erreur, tous vu mon erreur énorme, impardonnable.
Monsieur, tu as tout pardonné.
Non, j'ai sauté une ligne, je suis allé beaucoup trop vite. Bien évidemment, Danse Cadavirus, c'est extrait d'un album qui s'appelle Speak No Evil, qui est certainement le chef-d'œuvre de Wayne Shorter, mais le Wayne Shorter en tant que leader, c'est là où a été mon erreur, c'est que je vous ai parlé trop vite de Miles Davis, et je suis allé sur là, je suis pas, enfin bon, voilà.
Je suis allé
beaucoup trop vite, donc c'est pour ça que je me suis bien rendu compte qu'en vous parlant de Freddy Hubbard, vous avez dit, il y a un problème, mais je ne sais pas où est le problème. Bah, effectivement, je n'étais pas sur la bonne page.
Et du coup, Philippe, quand même qu'on a parlé, le micro n'était pas levé.
Ah bon. Donc voilà, mille excuses, je vous promets, je vais faire attention. Bon. Mais effectivement, donc, Speak No Evil, qui était le sixième album studio d'ailleurs, de Wayne Shorter, qui a été publié en 66. Et encore une fois, pour les aficionados, c'est la femme dont tu parlais, son épouse, qui se trouve sur la pochette
tout
du
à
disque.
Fait.
Voilà.
Tout à fait.
Voilà, j'ai fini, je m'arrête, je vous laisse la parole.
Non, tu restes encore avec nous. Et ben maintenant, je me retourne encore vers Françoise, qui va continuer sur un autre thème qui va nous passionner, n'est-ce pas, Françoise?
Oui, bien sûr, parce que moi je vais revenir sur cette année 1959, ne serait-ce que pour rendre hommage au passé de Wayne et son intérêt pour les beaux-arts. Parce que qu'est-ce qui se passe quand lui, il est à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées? Eh bien, le 3 octobre précédent de la même année, Paris est déjà le théâtre d'un autre événement artistique. André Malraux, ministre des Affaires culturelles depuis le 8 janvier, je vous rappelle qu'on n'avait pas de ministre de la Culture avant, décide de créer la Biennale de Paris. L'objectif était de doter Paris d'un grand événement artistique, de présenter un panorama de la jeune création internationale, mais surtout d'en faire un lieu de rencontre où devaient s'expérimenter les nouvelles modalités d'un art du futur. La Biennale de Paris n'est pas la première, hein. En fait c'est la troisième, il y a eu la Biennale de Venise en 1895, de Sao Paulo en 1951, mais la première édition française est inaugurée au MAMVP, comme on dit aujourd'hui avec le goût de notre époque pour les sigles et les abréviations, autrement dit au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui a besoin de se démarquer du centre Pompidou, qui a des collections plus internationales. Et sur le parvis du musée, Jean Tingly connaît son premier triomphe public avec Métamétique 17, une installation machine-sculpture dynamisée par un moteur qui produit des peintures à la chaîne dont il fait la démonstration devant le public. Il remet en question l'académisme de l'art, créant des machines construites en partie avec des objets de récup, volontairement imparfaites. Il s'oppose ainsi au culte de l'objet neuf auquel se vouent Warhol et les artistes du pop art dont on a déjà parlé. Il est déjà en avance sur notre époque, il pratique le recyclage, déjà utilisé avant lui par l'art brut, mais lui les met en musique. Et ces matériaux de récupération auxquels il redonne vie en les animant avec des moteurs à essence, ces matériaux se font aussi entendre. Dès 1955, trois ans avant, il fait partie, Tingly, de l'exposition à la galerie Denise René, Le Mouvement, pour laquelle Vasarely publie son manifeste jaune au manifeste de l'art cinétique, autrement dit de l'art qui bouge. Il y expose deux machines sonores, des reliefs annonciatrices des métamatiques, et le bruit est scandé par des casseroles. Et oui, déjà les casseroles, des bouteilles, des boîtes de conserve, des entonnoirs, des verres, frappés régulièrement par de petits marteaux. L'accueil du public va de l'enthousiasme à l'indignation, mais assurera à celui qui deviendra le compagnon de Niki Saint-Phalle la place de protagoniste dans la recherche de la restitution du mouvement dans l'art. Mais c'est pourtant l'action éphémère Hommage to New York, le 17 mars 60, dans le jardin des sculptures du Museum of Modern Art, autrement dit le MoMA, qui marque un tournant dans l'évolution de l'artiste. Et il connaît la consécration auprès des Américains, comme Wayne Shorter la connaîtra à Paris. Il s'agit là de la toute première œuvre d'art autodestructrice. La machine était composée de divers éléments que Tingly avait rassemblés sur les décharges et chez les brocanteurs du New Jersey. Moteur, ballon sonde, tube en acier, plusieurs morceaux de vélo, un piano, une radio. Et au cours de cette action, la monumentale machine Hommage to New York devait s'auto-détruire d'elle-même devant les personnes conviées. Vous voyez que Banksy n'a rien inventé.
Merci beaucoup, Françoise. On était impressionné. Philippe, je te laisse enchaîner puisque tu es resté avec nous.
Donc, alors là, cette fois-ci, je fais bien attention, je vais parler tout doucement. Donc, nous arrivons enfin à la fameuse période Miles Davis, Wayne Shorter. Bon, Miles, bien évidemment, il nous faudrait là aussi voilà, des émissions et des émissions. Il y a quelque chose d'intéressant quand même chez Miles, c'est simplement à titre, un petit peu pour dépeindre le personnage, que c'était quand même un personnage un peu particulier. Miles Davis, quand on lui disait « Vous faites du jazz », il répondait « Non ». Alors, pourquoi répondait-il non ? Il répondait non parce que faire du jazz le ramenait à la condition de noir aux États-Unis, donc symbolisait ségrégation, peuple, enfin bon, etc., etc. Donc, c'est vrai que Miles disait toujours « Je ne fais pas du jazz, je fais de la musique afro-américaine ».
Ce en quoi il avait raison.
Basta. Oui, c'est une, effectivement, c'est une chose qui peut s'entendre. Bon, ça, c'est pour le côté du personnage et ça le dépeint assez bien. Après, il faudrait forcément beaucoup plus de temps pour parler de Miles Davis. Miles Davis, donc, juste, et les saxophonistes, simplement, bon, bien évidemment, Coltrane, 55-57, Hank Mobley, dans les années 60, je vous renvoie à l'enregistrement 61 du Black Rose de San Francisco, qui est mondialement connu, George Coleman, 64, exceptionnel saxophoniste, et bien évidemment, Wayne Shorter, 64-69, c'est la grande période, énorme, ou bien évidemment, le quintet de rêve, celui dont je parlais tout à l'heure, où les mots me sont allés trop vite, donc le quintet de rêve, bien évidemment, Herbie Hancock au piano, Ron Carter à la contrebasse, Tony Williams à la batterie, et Miles. Là, je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Fall, qui est extrait d'un morceau qui s'appelle Nefertiti, de 1967, là, ça évolue dans l'écriture, c'est évolué dans tout. Écoutez bien, c'est absolument exceptionnel.
Voilà, c'était Fall. Magnifique morceau également.
Oui, c'est magnifique. Alors forcément, c'est comme c'est un petit peu la fin d'une période, et ben on va le laisser, voilà, on va le laisser partir encore un tout petit peu derrière nous.
Et alors, côté personnel, eh bien, il va d'abord se séparer de sa femme. Son père meurt d'un accident de droit route, ce qui ne va pas arranger ses problèmes d'alcoolisme, malheureusement. Il va se remarier avec une Portugaise. Ils vont avoir une fille qui, malheureusement, bon, pour certaines raisons, va devenir handicapée mentale. Mais tout ça ne l'empêchera pas de poursuivre sa carrière en solo. Et je veux juste signaler que Wayne était également très demandé pour des enregistrements pour d'autres musiciens. Ça s'appelle un sideman.
Tout à fait.
Voilà. Philippe, je te laisse enchaîner le dernier morceau.
Oui, on va enchaîner le dernier morceau, donc, qui est extrait d'un disque mythique, lui aussi, qui s'appelle Insolent Way, qui était publié en 1969. Donc, effectivement, il y a 2-3 ans qui vont s'écouler là, et il va se passer beaucoup de choses, et entre autres la naissance du jazz rock, bien évidemment, du jazz fusion, du jazz, tout ce que vous voulez, auquel on va mettre plein de choses derrière. Donc c'est là ce que je vous propose, c'est un morceau de transition qui nous amènera vers la seconde émission. Et puis les noms que je vais vous citer, bien sûr, on va les retrouver tout au long des années suivantes, dans la constitution de Weather Report, le Mahavishnu, etc. Donc rapidement, bien évidemment, Miles Davis, trompette, Wayne Shorter, bien sûr, saxophone, John McLaughlin, guitare électrique, Chick Corea au piano également, Herbie Hancock qui est toujours là, Joey Zawinul qui sera cofondateur forcément de Weather Report, Dave Holland, là aussi il faudrait une émission entière, Tony Williams qui fera toujours partie de l'aventure, Jack Dijonette, on en reparlera aussi plus tard, et Joe Chambers. Voilà, on est en 1969, Insolent Way, le morceau s'appelle Direction. Et allons-y, quoi, dans la direction.
Merci.
C'était Direction. Et nous arrivons à la fin de notre première partie sur One Shorter. Et avant de nous quitter, quelques actualités, Philippe.
Oui, quelques actualités. L'école de musique de Farin, donc, et son orchestre de jazz qui sort de plus en plus. Et on est assez content parce qu'il attire de plus en plus de monde. Donc, je vous donne quelques dates au cas où. Le 30 juin, ils vont jouer au Bar des Amis. Et oui, c'est un lieu bien connu des Farinois. Ensuite, après, le 13 juillet, ils font les festivals du jeudi de Villeneuve. Le 16 juillet, c'est pas encore sûr, mais normalement ça va se faire. Ils vont clôturer Arfarin. Le 23 septembre, ils jouent à Aubrenay également dans le dans le cadre aussi d'un festival. Et normalement, c'est même plus que normalement, puisqu'on l'a conclu avec Jacques Seigneuret, ils vont faire le Jazz Festival donc de Farin. Je vous rappelle leur nom, c'est le Sound of Jazz. Donc c'est l'orchestre de l'école de musique de Farin. Je reviens deux secondes sur l'enregistrement, ce qu'on vient d'écouter, parce que je ne l'ai pas précisé, j'ai donné tous les musiciens qui participaient à l'enregistrement, mais pas forcément à l'enregistrement du morceau qu'on a écouté, donc simplement une petite précision, Miles, bien sûr, trompette, Wayne au saxophone, vous aviez Joseph Winul, qui est celui qui a composé le morceau, qui était donc à l'orgue ou au piano électrique, nous avions Dave Holland à la contrebasse et Jack DeJohnette à la batterie, voilà, c'est complet. Et encore une fois, mille excuses pour l'erreur de tout à l'heure, qui est impardonnable, vous pouvez nous écrire, je vous assure, je répondrai à tous les courriers.
Alors, je vais vous présenter le Chien Trois Pattes qui présente ce dimanche 25 juin à Jasseron à 17h et reçoivent Lilith Baker. Puis en première partie, je crois qu'il y a l'école de musique de Belleville, Francis Poppy. Et puis surtout, ils organisent le samedi 1er juillet dans le cadre de la Biennale d'Art Farin au Château Boucher. Biennale que je vous conseille d'aller voir, l'entrée est gratuite le week-end. Et le Chien Trois Pattes reçoit Tatanka à 19h30. Voilà, merci mes amis, merci Philippe.
Merci Dédé,
merci Dédé, merci Françoise.
Merci Françoise, bah,
merci
de Tokyo.
À tous, ça a été un plaisir.
De Tokyo, voilà. La journée va être longue pour toi là-bas à Tokyo.
Oui, avec le décalage horaire.
Décalé,
mais...
Je sais.
Par contre, on va faire un tour au Blue Note de Tokyo, tu verras, c'est un bel endroit.
J'attends que tu viennes pour me le faire connaître.
Voilà. Allez, je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter le dimanche à midi, le jeudi à 19h. Et en podcast que sur Radio Calade 5.9. Voilà, merci, au revoir, à la prochaine fois.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.